dans ce début du XXIe siècle, c'est un petit peu marqué par rapport au XXe, il y a des contrastes. Ben, on assiste à un recul des croyances, avoir des convictions précises sur un sujet ou l'autre. Ben, ce n'est pas forcément très bien vu. Surtout si vous dites ce que vous pensez tout haut et qui n'est pas comme tout le monde pense, ben c'est pas facile. On est libre de croire ce qu'on veut tant que on n'ouvre pas sa bouche pour le dire. Et si on écoute un petit peu les actualités, tout ça, ben ce qui les questionne beaucoup maintenant, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Et il semble que les hommes, il n'aient pas d'autre perspective que d'être des estomacs sur des jambes, comme ça. La chose importante, c'est le caddie. Je ne veux pas dire que ce ne soit pas quelque chose d'important, et pour beaucoup d'entre nous, ça peut être vraiment une difficulté. Mais on a le droit aussi de lever les yeux vers quelque chose de meilleur et d'autre. Ce qui fait bouger les hommes, ce sont beaucoup les idées. Le texte de ce matin nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, dans tout le flot des informations qui nous inondent chaque jour, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent? Est-ce que c'est une information, quelque chose que nous recevons et qui mérite qu'on s'y attarde ou pas? Eh bien, oui, bien sûr, ça mérite qu'on s'y attarde encore et encore. Je vais lire la suite de notre texte, donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Luc, chapitre 24. Et on va lire du verset 36 jusqu'à la fin du chapitre. Alors là, juste avant, c'est l'éducation des disciples d'Emmaüs qui ont vu Jésus-Christ au moment où il partageait le repas avec eux. Et ils sont revenus à Jérusalem. Le verset 35 dit « Les deux disciples racontèrent ce qui était arrivé en chemin, comment ils l'avaient reconnu au moment où il avait rompu le pain. » Et ils parlaient encore de cela, verset 36. Luc chapitre 24, verset 36. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Rien de moins. Il se présente au milieu d'eux et il dit « Que la paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles de vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez bien que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ah, quand on parle de manger, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais. » Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour, que la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voici, que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et il fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Comprendre la résurrection, comprendre la résurrection de Jésus pour y croire et pour la partager. C'est le titre que j'ai choisi ce matin pour ce passage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents ? Premier épisode qu'on a vu au début du chapitre 23-24, c'était croire Jésus sur parole. Les dames qui se sont levées tôt le matin sont parties embaumer un mort. Mais elles n'ont pas trouvé de cadavre. Elles ont trouvé deux anges qui leur ont dit que Jésus-Christ n'était pas là, qu'il était ressuscité, ne cherchait pas parmi les morts celui qui est vivant. Et il aura ressuscité, s'est relevé d'entre les morts, donc. Et il leur a dit une deuxième chose importante, les anges. Souvenez-vous qu'il vous disait cela quand il était en Galilée, qu'il ressuscite, qu'il devait souffrir, mourir et ressusciter. Les dames n'ont pas vu Jésus et les dames n'ont pas été crues. Le défi, c'était de croire Jésus sur parole. Croire ce qui est écrit sur Jésus, ça c'était l'affaire des deux disciples d'Emmaüs. Ils marchent un long moment avec Jésus sans le reconnaître. Et Jésus leur dit qu'ils devaient croire les écrits prophétiques, parce qu'ils parlent de lui. Et il leur expliquait à travers tout l'Ancien Testament ce qui le concernait. Donc, ils savaient que Jésus avait dit qu'il ressusciterait, des femmes avaient témoigné. Ils avaient ce voyageur avec qui ils cheminaient qui leur avait dit que c'était écrit dans les Écritures. Mais ils ne croyaient pas encore. Jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent pour voir Jésus. Et à ce moment-là, tout a été clair. Mais avant, ils n'avaient pas cru. Ni par le témoignage des dames, ni par le témoignage de Jésus lui-même qui leur parlait de la parole de Dieu. Ça, c'était les deux premiers épisodes. Croire Jésus sur parole, croire ce qui est écrit sur Jésus. Et maintenant, donc, notre texte, pour ce qui concerne les premiers versets, entendre, voir et toucher, ce n'est pas croire à la résurrection. Ce n'est même pas suffisant. Alors, on voudrait juger rapidement ces disciples qui sont été là et puis qui n'ont pas cru. Jésus était au milieu d'eux et ils n'ont pas cru. Mais il faut essayer de s'imaginer que nous avons mis un proche, nous avons un proche qui est décédé, nous l'avons enterré, nous avons vu mort, nous l'avons vu dans la tombe, et tout à coup, quelqu'un nous dit « Ah mais non, il est vivant, je l'ai vu !» Ah, c'est difficile à croire, ces choses-là. Ça semble tellement incroyable. Jetons pas trop la pierre à ses disciples qui voient Jésus, parce que c'était un vrai choc. On peut remarquer pourtant que Dieu a préparé cette rencontre avec Jésus ressuscité. Le Seigneur a été tout en douceur avec eux. D'abord, c'est les dames qui sont arrivées en annonçant un message donné par les anges. Puis c'est Pierre qui dit qu'il lui est apparu. Il y a une personne qui a vu Jésus, mais ils croient toujours pas. Puis il y a les deux disciples d'Emmaüs qui racontent leur aventure. Il a marché à les enseignant sans qu'ils le connaissent. Puis quand il a ouvert leurs yeux, il les a vus et il est disparu. Et quand il apparaît ici au milieu d'eux, ses premières paroles, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Que la paix soit avec vous. Des paroles d'apaisement, des paroles paisibles. Et il va laisser du temps pour qu'ils arrivent, qu'ils reviennent à la réalité. Ce sont des disciples qui préfèrent croire aux fantômes qu'à la résurrection de Jésus. C'est ce que disent les versets. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Ce n'est pas Jésus que nous voyons, c'est un fantôme. Et Jésus pose une question très intéressante. Pourquoi cette idée de fantôme? D'où ça vient cette idée de fantôme? Elle surgit du cœur, dit le Seigneur. Pourquoi votre cœur résonne-t-il de la sorte? Et Jésus, comme souvent, il pointe quoi? Il pointe le cœur. Il pointe le cœur des disciples. Il pointe notre cœur. C'est là que ça se joue, la bataille. Et le raisonnement du cœur, c'est non, pas possible. On n'a jamais vu cela, ce n'est pas vrai. C'est certainement un fantôme, ou alors on est victime d'une hallucination, où il y a quelque chose, mais non. Les raisonnements du cœur, tout leur cœur leur dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. On ne peut pas, Jésus-Christ n'est pas là, ressuscité devant nous. Combien de temps le Seigneur leur laisse le temps de construire ces raisonnements? Vous savez, ça se passe dans notre tête. On raisonne, on essaye de comprendre quand il y a quelque chose qui est difficile, et ils en déduisent que malgré tout ce qu'ils ont entendu, c'est un fantôme. Ça peut pas être autre chose qu'un fantôme. Des disciples qui préfèrent croire au fantôme qu'à la résurrection de Jésus. Pourquoi? Des disciples qui sont contents de voir Jésus, on le voit après, le verset d'après. Donc il leur parle. Pourquoi de pensées pareilles surgissent-elles dans nos cœurs? Touchez-moi, regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montre ses mains, ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Malgré cela, ils étaient joyeux de voir Jésus-Christ là devant eux, mais ils ne croyaient pas encore. Ils n'avaient pas encore saisi la foi. Le mot croire, c'est le mot de la conviction ici. Ils étaient contents de savoir Jésus vivant, mais il leur manquait encore quelque chose pour croire. Et ça se comprend un petit peu quand on pense à l'expérience des disciples d'Emmaüs. Vous savez, ils cheminaient avec Jésus. Jésus leur racontait tout ce qui le concernait dans les Écritures. Ils avaient leur cœur qui brûlait à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sentaient une flamme en eux qui brûlait. Mais c'est pas pour autant qu'ils croyaient que Jésus-Christ est ressuscité. Leurs yeux étaient toujours fermés et ils ne le reconnaissaient pas. Alors, où est la difficulté ici? Donc, on a vu que Jésus-Christ mange devant eux pour faire taire cette idée que ça pourrait être un esprit. Voilà, un esprit n'a ni or, ni chair. Et puis, il mange du repas, il mange des aliments. Et puis, Jésus parle. Comprendre la résurrection du Messie pour y croire. Il y a des choses à comprendre pour croire dans la résurrection. Sinon, la résurrection reste quelque chose qui est incroyable, qui n'est pas recevable. Verset 44, il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La Bible est la clé pour croire dans la résurrection de Jésus. Jésus répète ce qui est dit aux dames et aux disciples d'Emmaüs. Je vous ai dit que, donc il y a le témoignage de Jésus, il avait annoncé sa mort, sa résurrection. Et ça, ça nous renvoie au Nouveau Testament. Donc pour nous, le Nouveau Testament, c'est les évangiles et les épîtres, c'est ce qui rassemble les paroles de Jésus et qui les développe à travers les épîtres, ce que je vous ai dit. Et il dit également ce qui est écrit, ce que les Écritures disent. Et les Écritures, ils parlent du canon hébraïque, ici, de tout l'Ancien Testament, avec Moïse, le Pentateuque, avec les prophètes, la Torah, les premiers et les derniers prophètes, les autres écrits, avec sur leur livre principal, les psaumes, quand Jésus parle de Moïse, des prophètes et des psaumes, il parle de tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament est nécessaire pour croire dans la résurrection de Jésus. Jésus ouvre l'intelligence, enfin, de comprendre la Bible. Le mot « ouvrir » ici, ça a le sens d'ouvrir à travers. Hein. C'est un petit peu comme si vous avez un mur et puis vous allez ouvrir une porte dans le mur. C'est pas ouvrir la porte, mais c'est découper le mur pour y mettre une porte. Et là où il y avait un mur, il y a une porte. C'est l'idée des nouveau-nés. Quand la première fois qu'une maman a un bébé, ben le bébé il fait le passage en quelque sorte. Et c'est lui qui va ouvrir les organes de la maman, et le premier bébé, une fois qu'il est né, ben les autres bébés qui suivent, ça va être beaucoup plus facile pour la maman et pour le bébé. C'est cette idée de ouvrir, c'est quelque chose qui est ouvert de façon définitive. Et donc Jésus ouvre l'intelligence. Il ouvre l'intelligence afin de comprendre la Bible. L'intelligence, c'est l'entendement, c'est le bon sens, c'est ce qui nous permet de réfléchir de façon cohérente. Et il faut comprendre l'enseignement de la Bible, de la nouvelle et de l'ancienne alliance. Vous rappelez de Jésus dans la parabole des semeurs. La bonne terre, c'est celle qui donne du fruit. Et celle qui donne du fruit, c'est la personne qui entend la parole de Dieu et qui la comprend, dit Jésus. Et qui la comprend. Il y a quelque chose à comprendre. Et on ne pourra pas croire dans la résurrection de Jésus sans comprendre le sens que la Bible lui donne. Si on prend la résurrection toute seule, en dehors de la signification qu'elle prend dans la parole de Dieu, c'est incompréhensible. Et on a besoin donc que Dieu nous ouvre la compréhension pour cela. Seule la Bible explique la résurrection. La résurrection dit que la mort n'est pas une fatalité. J'ai regardé sur internet un petit peu, vous savez, les citations des personnes. J'en ai parcouru des dizaines et des dizaines. C'est facile à trouver, de toutes sortes de personnes qui donnent des citations. Et chaque fois, il ressort que la mort est effroyable, qu'elle est implacable. Elle ne discerne personne, ni petit, ni grand, ni riche, ni pauvre, ni intelligent, ni stupide. La mort est celle qui a le dernier mot à la fin et contre laquelle on ne peut pas lutter. Mais là, la résurrection de Jésus, ça signifierait que la mort a un maître. Quelqu'un qui lui est supérieur, plus grand que la mort, plus fort que la mort, mais qui cela peut être. Voilà quelque chose qui est difficile à croire, parce que si on croit à la résurrection, on est amené à croire, mais donc la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin, la mort n'est pas la toute puissante. Il y a quelque chose d'autre derrière, de possible. Et les questions surgissent. Qui est celui qui a vaincu la mort? Qui est-il? Pourquoi l'a-t-il vaincu? Pourquoi était-il mort? Est-ce qu'il y a un espoir pour moi face à la mort aussi? Toutes ces questions surgissent avec la résurrection. Il est écrit que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La résurrection est le dernier épisode d'une... Bon, c'est pas une trilogie, il y a que trois épisodes. Mais comme dans Star Wars, il y a tout un tas d'épisodes, et si on n'a pas tous les épisodes, on comprend pas toute l'histoire. Et si on n'a que le dernier épisode, la résurrection, on peut pas comprendre tout le sens de l'histoire. Le premier épisode, c'est Dieu est tout puissant, il y a un Dieu tout puissant. Un Dieu tout puissant, l'auteur, le chef, qui a créé un chef-d'œuvre, une création initialement très bonne, où il n'y avait rien de mauvais, où tout était parfait. Ça, c'est le premier épisode. Et le deuxième épisode, l'homme, le seul créé à l'image de Dieu, s'est révolté contre lui. Et il a entraîné la malédiction de la mort. Et c'est vrai que si on suit le chemin des hommes sur la terre, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des traces de sang, on trouve de la destruction, on trouve de la honte, on trouve des larmes, on trouve des regrets. Voilà ce que les hommes laissent derrière eux. Et vous savez que l'actualité nous le rappelle de façon cruelle en ce moment. C'est le deuxième épisode. Le troisième épisode parle du Messie. Loin de Dieu, celui qui est béni, celui qui a toutes les perfections, qu'il est admirable. C'est à lui que revient à juste titre le trône. Le trône, c'est lui qui a toutes les qualités pour s'asseoir sur le trône de l'humanité. C'est le sauveur des hommes, le Messie. Et puis un autre épisode qui parle de la souffrance du Messie qu'ils ont vécu. Le serviteur du Dieu Très-Haut devait faire l'expiation des péchés des hommes, payer pour les fautes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bouc émissaire ? Un bouc émissaire, ça vous dit quelque chose ? C'est peut-être une expression qui est un peu ancienne maintenant. Vous savez, quand j'étais dans les classes, quand j'étais enfant, des fois, il y avait de la pagaille qui était faite dans la classe. Et puis tout le monde participait à cette pagaille-là. Hein? Et puis, parce qu'il n'y avait pas de surveillant. Alors, grosse pagaille, tout le monde faisait. Et puis tout à coup, il y a le professeur qui rentre, et puis il y en a un là qui n'a pas entendu parler et qui s'est pas mis au garde à vous. Et puis blablabla, il continue à faire ses plaisanteries. Après celui-là, voilà. C'est sur lui que tout va retomber. Hein? Qui c'est qui est responsable? Ah ben tout le monde se tait, et puis il y en a qu'un. C'est le bouc émissaire sur lequel c'est lui qui va être puni, alors que toute la classe devait être punie. Avec l'histoire de Jésus, c'est différent, parce que ce n'est pas Jésus n'était pas dans la classe. Il n'était pas là. C'est sûr que c'est pas lui qui était responsable. Et il s'est proposé pour être le responsable. C'est ça la différence. Il s'est lui-même proposé. Okay. C'est moi qui vais prendre la punition pour tout le monde. C'est moi qui vais porter cette punition-là. Ce qu'on appelle un bouc émissaire. Et il est mort. La sentence, c'était la mort. Pour que tout le monde puisse recevoir son innocence, lui prend la culpabilité de tous. Les souffrances du Messie. C'est le 1, 2, 3, 4e épisode de la série. Et puis enfin, il y a la résurrection, qui est le signe de la réussite de la mission de Jésus. Et c'est pour ça que l'on croit à la résurrection. Parce qu'elle a un sens et s'inscrit dans quelque chose qui parle du salut des hommes. Il a obtenu notre pardon. Dieu peut enfin déverser sur nous tout son amour, toute sa bonté, toute sa bienveillance, toute sa grâce. Et bien plus encore de choses que cela. La résurrection de Jésus témoigne de la réussite de la mission du Messie. Et quand on comprend cela, mais oui, je comprends maintenant, je crois dans la résurrection du Messie. Je le vois devant moi, mais ça a du sens. Les disciples comprenaient que ça avait du sens que Jésus soit là, en chair et os, devant eux. Ce ne pouvait être que lui. Ce ne pouvait plus pas être un fantôme. Non, il fallait que ce soit lui. Et c'était lui. Et ils l'ont vu et ils l'ont contemplé. Et ils ont été remplis et débordants de joie. Seule la Bible explique la résurrection. Sinon, la résurrection est incompréhensible. Le dernier verset, partagez ce que l'on croit. 47 à 53. Vous êtes témoins de ces choses. La repentance, le pardon des péchés sera prêché en mon nom à toutes les nations. Vous êtes témoins de ces choses et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les conduisit jusqu'à Béthanie. Il leva les mains pour les bénir. Et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, nous dit le texte, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Et ils étaient où ? Constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Est-ce que les disciples ont partagé partout la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus parce que Jésus leur a dit de le faire? Ou bien est-ce que les disciples ont partagé partout la bonne nouvelle de la victoire sur la mort de Jésus parce que cela débordait de leur cœur? Sans doute les deux, hein. En tout cas, ils l'ont fait. Et en tout cas, Jésus nous demande de le faire. Comment ont-ils été témoins de la résurrection? Ils ont reçu la bénédiction de Dieu, ils ont reçu cette bénédiction de Jésus avant de partir, qui les a tous bénis. Ils ont été remplis de joie et ils passaient leur temps dans le temple. Bien sûr, le temple... ça allait bientôt être terminé. La présence de Dieu, ça n'allait plus être dans le temple. Mais c'est l'idée qu'ils passaient leur temps dans la présence de Dieu. Et donc, la fête de Pentecôte allait venir où ils allaient trouver le courage de témoigner partout. Voilà la façon dont ils ont été témoins de la résurrection de ses premiers disciples. Et nous maintenant, quelles sont les applications? Quelles conséquences? Je crois que le premier enseignement du texte, c'est nous demander de croire dans la résurrection de Jésus. C'est ce que le texte nous dit, de croire dans la résurrection de Jésus, parce que c'est écrit dans la Bible. Ça fait partie du plan de Dieu pour nous sauver. Nos ressources naturelles ne sont pas capables de croire que Jésus est ressuscité. Malgré les évidences, hein, on veut se cacher derrière... cela, mais pour croire, il faut voir. Si je vois pas, je croirai pas. Et il y a des personnes qui se cachent derrière ça en disant, ben non, Jésus, moi si je vois pas les choses, je les crois pas. Il s'agit pas de voir. Il s'agit de comprendre les Écritures, de comprendre le message de la Bible. C'est ça qui est important. Notre adhésion intellectuelle est indispensable, mais elle ne peut se faire que si l'on croit ce que dit la Bible. Pourquoi le Fils de Dieu s'est incarné? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est ressuscité? Toutes ces questions doivent trouver des réponses. La Bible offre les meilleures réponses métaphysiques aux questions existentielles. C'est supérieur à toute autre croyance. Même l'athéisme est une croyance aussi, hein. Tout aussi dangereuse que l'islam, c'est l'histoire qui le dit. La parole de Dieu offre les meilleures réponses aux questions métaphysiques. Croire dans la résurrection de Jésus. Comment faire pour croire? Ben, vous avez peut-être rencontré des personnes qui sont là, admiratives. Ah, si je pouvais avoir la foi comme vous. Si je pouvais avoir la foi comme vous, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Dans notre texte, les anges ont parlé aux dames. Jésus a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs et il a ouvert l'intelligence aux disciples. Donc Dieu a besoin d'intervenir. Ça, c'est vrai. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a pas de vraie acceptation de la résurrection de Jésus. Mais Dieu n'interviendra pas sans notre accord. Les dames avaient eu la foi de se lever le matin pour aller au tombeau alors qu'elles savaient que la pierre était devant et qu'il était impossible de l'ôter de là, mais ils avaient la foi qu'elles pourraient quand même avoir accès au corps. Les disciples d'Emmaüs ont retenu cet inconnu qui parlait avec eux. « Reste avec nous, reste avec nous », ont-ils insisté. Et c'est quand ils l'ont invité qu'il a leurs yeux s'est ouvert. Il faut inviter Jésus-Christ dans notre vie. Il faut l'inviter, il faut le retenir, il faut lui demander. Hein? Et tous les disciples avaient fait le choix de choisir Jésus, tous ceux à qui il est apparu. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient le Messie promis. Ils cherchaient le Messie promis en Jésus-Christ. Donc, tout cela, ont compris et ont cru dans la résurrection du Christ. Il y a quelque chose qui doit venir de nous. C'est le texte nous le dit ici, la repentance et le pardon sera annoncé. La repentance, c'est changer de direction. Je m'arrête, je vais dans cette direction et je me tourne pour aller dans une autre direction. Et ça, sans faire cela, ah ben, il ne se passera rien. Le voile de l'écriture, le voile sera toujours devant les Écritures et on ne comprendra pas la résurrection et on ne pourra pas y croire. Ça, c'est les applications principales. Et pour vous, si vous êtes chrétien, entrez dans la prophétie. Regardez ce magnifique verset 47 qui dit la repentance et le pardon sera prêché en son nom à toutes les nations. Il était écrit cela. Et il est écrit que la repentance et le pardon sera prêché à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et là, frères et sœurs, nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons rentrer dans cette prophétie. Rentrer dans la prophétie de la Bible. L'amour n'est plus une fatalité. C'est à faire savoir. Hein? On est rapide pour partager plein de choses sur Internet maintenant. On partage. Mais s'il y a quelque chose que l'on peut partager, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu de la mort et voilà comment il faut comprendre cette résurrection. La résurrection entre dans le plan de Dieu pour nous sauver. Elle a dans son contexte la pensée de la résurrection donne pour nous une source de joie. Et pour être de bons témoins, faisons comme les premiers disciples, recherchons la présence, l'intimité, la communion avec Dieu, comme il le faisait par la louange, l'adoration. Et le courage nous sera donné pour témoigner et pour parler de Jésus. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour la Bible, merci pour la parole de Dieu, merci pour ton plan qui s'est l'œuvre de Jésus-Christ qui s'est achevée en apothéose avec sa résurrection. Combien cette résurrection nous ouvre de perspectives par rapport à la mort. Jésus-Christ est plus grand que la mort. Et c'est quelque chose que tout le monde a besoin de savoir. Merci pour la façon dont tu fais comprendre la parole de Dieu, que tu amènes les personnes à la conversion, Seigneur. Accepte que nous puissions témoigner de toi. Accepte que nous puissions parler de cette magnifique résurrection. Accepte que nous puissions être de bons témoins, comme tu le veux, Seigneur Jésus. tu connais notre faiblesse, tu connais nos difficultés, tu sais ce que nous sommes. Nous ne sommes pas différents de ces disciples qui t'ont vu et qui n'ont pas cru et qui n'ont pas réagi et qui se faisaient des raisonnements. Seigneur, on n'est pas différents d'eux. Tu as été tellement doux avec eux. Seigneur, nous aussi, entraîne-nous avec toi dans la joie de la résurrection. Fais-nous que nous aussi on puisse annoncer joyeusement, toujours joyeusement, le message de l'Évangile, parce que c'est une tellement bonne nouvelle que cette mort, cette vieille ennemie est vaincue, que c'est pas elle qui a le dernier mot, mais que c'est Jésus-Christ, que ça vaut vraiment la peine. Un message qui vaut vraiment la peine d'être écouté, d'être compris, tel que la Bible le présente. Merci pour nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen.